pas ce matin, c'est parce que Jésus-Christ est le ciment qui nous réunit. Et donc, pour ce culte ce matin, c'est un culte un peu raccourci. J'en assurerai toute l'animation avec Jérémy et Elisabeth, qui sont à la musique. Je les remercie encore d'être présents, malgré le temps estival. Donc, nous aurons un culte un petit peu raccourci. Et je vais continuer sur la thématique que j'ai abordée il y a un mois, lorsque j'animais ce culte début juillet, sur la thématique d'Esdras, en fait. Esdras, Néhémie, ce retour d'exil, finalement, on verra qu'il y a une portée symbolique énorme pour nous au quotidien, même si c'est un très vieux texte qui a 2500 ans. On se dit, 2500 ans, c'est vraiment vieux. Ben non, c'est un texte très actuel, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Alors, on a vu dans ce chant deux identités de Jésus. Première identité, c'est l'identité du sauveur. Hein. Yahweh, c'est le sauveur. Hein. En hébreu, Yeshua, ça veut dire celui qui sauve. Lorsque l'ange apparaît à Marie, il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Yeshua, c'est vraiment le sauveur. Et dans l'Ancien Testament, ce nom Yahweh apparaît très tôt, après la chute, hein, puisque au départ, il s'agit d'Elohim, le Dieu créateur, qui a mis tout en place toute chose. Et après la chute, ben, l'être humain, déjà Dieu avait prévu que l'être humain avait besoin d'un sauveur. Et on voit apparaître ce nom de l'Éternel, ce tétragramme Yahweh, YHWH, que les Juifs ne prononcent pas. Hein, dans les Bibles juives, le nom Yahweh est barré, remplacé par Adonai. Hein, si ceux qui ont la version Chouraki, par exemple, vous avez Yahweh barré, et puis Adonai écrit en tout petit au-dessus. Voilà. Donc, c'est l'Éternel hein, qui apparaît. Et lorsque la Bible dit Dieu, parfois derrière Dieu, il y a Elohim, le Dieu créateur, parfois il y a Yahweh, le Dieu sauveur. Donc, il y a le sauveur, celui qui sauve son peuple de ses péchés, qui nous a sauvés. On aura l'occasion ce matin de le louer pour cela. Et puis, il y a le roi. Nous annonçons le roi. Alors, c'est vrai que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas été reconnu par les puissants de l'époque. Il n'a pas été reconnu comme le roi, sauf sous la forme de moquerie. Hein, on se moquait de lui. Hey, toi, le roi des Juifs. Hein, même Pilate a mis un panneau, ici le roi des Juifs. Mais dans le cœur des gens, Jésus, lors de sa première venue, n'a pas été reconnu comme le roi, sauf ceux qui ont cru en lui, bien entendu. Mais la parole de Dieu, en Hébreux 9, 28, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à prendre Hébreux 9, 28, qui nous dit que Jésus, ce Jésus, reviendra une deuxième fois. Alors, la première fois, il est venu pour le péché, pour pardonner le péché de l'humanité, mais il reviendra une deuxième fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Donc Jésus est venu une première fois comme un humble serviteur pour mourir pour nos péchés, pour nous sauver, et il reviendra, Hébreux 9, 28 nous dit, il reviendra une deuxième fois, ça, cette fois-ci plus question de péché puisque le péché a été réglé, mais il reviendra une deuxième fois pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut, et là il reviendra sous la forme d'un roi glorieux. Et nous qui sommes ses enfants, j'espère la plupart d'entre vous ici, si ce n'est la majorité, la totalité, nous qui sommes ses enfants, eh bien nous pouvons annoncer ce roi parce que nous savons que Jésus viendra comme roi. Et Jésus est la manifestation visible du grand Dieu de l'univers qui est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit l'évangéliste Jean dans son prologue. Mais Jésus-Christ, le Fils unique, venu du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc celui qui voit Jésus, voit Dieu. Alors on ne voit pas Jésus parce qu'on n'y était pas, mais par le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous, chacun de ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur, eh bien nous voyons Jésus-Christ tel qu'il est, et nous voyons Dieu par la même occasion, nous voyons dans les évangiles comment Jésus vivait, et on a une image de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons la liberté de nous approcher du Père. C'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 12. En lui, et en lui seul, nous avons la liberté de nous approcher du Père. Et c'est la raison d'être, ce matin, de notre culte. Voilà. Donc, la dernière fois, début juillet, Tim, on peut peut-être enregistrer à partir de là. La dernière fois, donc début juillet, nous avions réfléchi sur la vie et le ministère d'Esdras. Et je vais poursuivre aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Et puis, il y a une exhortation très très forte que j'aimerais vous laisser pour ces vacances, pour ceux qui partiront en vacances. Et je vais vous rappeler rapidement ce que nous avons vu la dernière fois. Parce que, vous savez, la répétition, c'est la mère de l'enseignement, comme on dit, hein. La dernière fois, Philippe on avait étudié l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, disait à ses lecteurs « Je ne me lasserai pas de vous rappeler les mêmes choses, bien que vous les connaissiez déjà. Je ne vous lasserai pas de vous répéter les mêmes choses. » Donc, un peu de répétition, ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc, on va aujourd'hui être toujours dans le livre d'Esdras, et puis on fera une petite incursion dans le livre de Néhémie, parce qu'en fait, ces deux livres sont liés. Mais avant cela, ce que je vous propose, c'est... on va faire un petit jeu. On va faire le jeu des binômes bibliques. Alors, priorité aux enfants. Hein, les enfants, participez en premier. Hein, Anna, tu peux... On compte sur toi, Anna. Hein. Voilà, pas que Anna, il y en a d'autres aussi. On va faire un jeu des binômes. Quels sont les binômes célèbres dans la Bible? Par exemple, si je vous dis... Bon, ça y est, ça ne veut plus marcher. Si je vous dis Ève, ah ben, ça ne marche plus. Alors, voilà, Ève et Adam, d'accord? Alors, on va continuer. Si je vous dis Élisée, quel est le binôme d'Élisée? Avec qui il était très proche? Élie, bravo. C'est Élie. Si je vous dis Marthe. Ah ben, pas les adultes. Laissez répondre les enfants, s'ils ne trouvent pas, vous le soufflerez. Marthe, Marie, d'accord. Alors si je vous dis Jacques. Qui est-ce qui était très proche de Jacques? Jean, bravo. Comment tu t'appelles? Audrey, bravo Audrey. Jean, c'est parfait. Si je vous dis Josué. Josué. Qu'est-ce qui était le père spirituel de Josué? Moïse, voilà. Si je vous dis Priscille. Priscille, c'est dans le Nouveau Testament. Non? Pas de réponse? Aquilas, voilà, Aquilas et Priscille. Si je vous dis Barnabas. Barnabas. Paul. Si je vous dis Silas. Paul aussi. Si je vous dis Timothée. Paul aussi, c'est bien. Vous voyez, Paul, il est un honneur. Et enfin... Ouais. Jonathan, David, ok. Si je vous dis Saint-Ish. Ah non, ça ne marche plus là. Saint-Ish. Saint-Ish, c'est dans le Nouveau Testament. C'est dans la lettre aux Philippiens. Évodie, c'est très bien. On a une Évodie dans l'Assemblée. Hein. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on a une Évodie. Exactement, c'est Évodie. C'est deux femmes qui se disputaient. Et Paul leur dit, je vous exhorte à calmer le jeu. Et si je vous dis Esdras? Néhémie, voilà. Donc, Esdras et Néhémie, alors c'était juste pour, voilà, un petit temps de fun. Voilà, Esdras, donc, est intimement associé à un autre personnage biblique qui est Néhémie. Il forme un binôme indissociable. Et donc, ce binôme indissociable, tant au niveau des deux livres de la Bible, hein, il y a aujourd'hui un livre d'Esdras et un livre de Néhémie, mais c'est assez récent. Au moment de leur écriture, il y avait un seul livre. Il a été séparé par la suite, je crois, au deuxième ou troisième siècle après Jésus-Christ. Ils ont été séparés, mais c'est deux livres qui vont ensemble. Et d'ailleurs, c'est des deux personnes qui ont travaillé ensemble. Et ils avaient un rôle respectif qui était important. Ils avaient chacun leur rôle, en fait. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez, il y en a un qui avait un rôle plus politique et l'autre un rôle plus spirituel. Alors... Néhémie, le rôle politique, ben, il a assuré la sécurité des Juifs. Hein. Les Juifs étaient ouverts à tout le monde à Jérusalem. Il a reconstruit la muraille, il est connu pour ça. Il a également mis fin à des injustices sociales. Il est intervenu fermement. Il y avait encore de l'esclavage, il y avait des tas de choses qui n'allaient pas. Il a encouragé le respect du sabbat. Hein, à un moment donné, il a fait fermer les portes en disant « Vous, les marchands, vous terminez, quoi. Vous n'aurez pas le droit de rentrer le jour de sabbat. » Et puis, il a assuré aussi l'intégrité morale du peuple. Hein, le peuple s'était allié à des femmes étrangères, il y avait eu du mélange. Et Néhémie a mis fin à tout ça. Donc, il a eu un rôle politique très important. Et Esdras, il a eu un même rôle qui est beaucoup plus spirituel. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il a lu la loi de Dieu. Il a poussé le peuple à la piété par son comportement. Il a poussé le peuple aussi à s'engager dans une alliance. Et il a encouragé les fêtes de l'Éternel et les célébrations. Voilà. Donc, deux personnes qui ont eu un rôle extrêmement important. Et pourtant, ces personnes étaient faillibles, hein, puisque tout être humain est pécheur, tout être humain est faillible, et il n'y a que Jésus qui peut cumuler toutes les fonctions. Hein. C'est ce qu'on a vu en introduction. On a vu que Jésus est le roi, il est le sauveur, il est le sacrificateur qui fait l'intermédiaire entre Dieu et nous, et en plus, il est le sacrifice. Et il n'y a que Jésus qui est parfait, qui peut cumuler toutes ces fonctions. Vous voyez, il a fallu... Dans toute l'histoire du peuple d'Israël et même l'histoire moderne, il faut séparer les fonctions. Même aujourd'hui, les anciens, ben, ils sont plusieurs. Pourquoi ? Parce que l'être humain est faillible et il faut plusieurs personnes pour contrebalancer une personne qui peut être faillible. Donc Jésus-Christ, c'est le seul qui soit vraiment parfait. Hein, voilà. Donc je vais rappeler rapidement... Avant qu'on passe à un temps de louange, je vais rappeler le contexte historique. Donc Esdras et Néhémie sont revenus de l'Empire perse jusqu'à Jérusalem. C'est un long voyage. Hein, ils ont passé beaucoup de temps, 4 mois de voyage. D'accord. Et quand on regarde le contexte historique, hein, je vous avais... Voilà. Je vous avais présenté ce schéma, là, vous voyez. Donc, quand on regarde un peu ce contexte historique, dans le livre d'Esdras, il y a une première partie où il décrit le retour, d'accord, sous Zorobabel, Josué. Il y a un début de reconstruction du temple, et puis c'est interrompu, ça repart. Et Esdras arrive finalement assez tard, dans les années 457, et Néhémie arrive à peu près en même temps, on n'est pas très sûr des dates. Toujours est-il qu'il commence à œuvrer en binôme, à partir de ce moment-là, et c'est ce que le livre nous raconte. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est un peu plus sur le contexte spirituel. Voilà, les enjeux spirituels de ce livre d'Esdras par rapport à nous, par rapport à la période actuelle. Alors, je vais repositionner un schéma un tout petit peu différent. Voilà. Donc, en 1000 avant Jésus-Christ, on a ici ce qu'on appelle l'apogée du royaume. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que Dieu voulait. Dieu voulait un royaume théocratique, c'est lui le roi. David était un homme selon le cœur de Dieu, il était soumis à Dieu. Et puis, David avait une autorité déléguée. Salomon, c'est la même chose aussi. Et donc, ici, on est au sommet du royaume. Il y a une organisation, il y a une vie spirituelle... Il y a des fêtes, voilà, la loi de l'Éternel est respectée. Donc ça c'est, on va dire, ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël, et c'est ce que Dieu aimerait pour chacune de nos vies. C'est qu'on soit unis à lui, présent à son contact au quotidien, le dimanche aussi, louer le Seigneur, etc., seul, collectivement, en famille. Ça c'est la volonté idéale de Dieu pour nous. Malheureusement, l'être humain est pécheur. Et on voit que la suite, hein, ça a commencé dès la fin du règne de Salomon, il y a ce qu'on appelle une lente dégringolade, hein, avec des hauts et des bas, il y a des bons rois, il y a des mauvais rois, mais il y a introduction d'indépendance, d'idolâtrie, d'abandon de l'Éternel, d'abandon de la loi. Ça dure un petit 500 ans, d'accord ? Et là, ben, c'est la déportation. Dieu dit, ça suffit, vous avez été idolâtres. Et donc, Il applique ce qu'on appelle la loi de la rétribution dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est les bénédictions et les malédictions. Dans le Deutéronome, Dieu avait dit « Si tu fais le bien, tu seras béni. Si tu fais le mal, tu auras tous ces malheurs. » Et effectivement, ils sont déportés à Babylone et c'est ce qu'on appelle le début du temps des nations. Le temps des nations, c'est défini dans la Bible comme Jérusalem foulée aux pieds par les nations. C'est-à-dire Israël n'est plus maître chez lui, c'est d'autres nations qui sont à Jérusalem. Et ce temps des nations qui a démarré en 586, deuxième grosse déportation, il dure encore aujourd'hui. Parce que Jérusalem, aujourd'hui, est foulée aux pieds. Quand Jésus est venu, Jérusalem est occupée par les Romains. Aujourd'hui, Jérusalem est moitié juive, moitié palestinienne, etc. Les Juifs ne sont pas chez eux. Et c'est ça l'enjeu, finalement. C'est-à-dire que quand on est chez soi et qu'on est maître de son destin, eh bien, on peut louer le Seigneur, on peut avoir une vie spirituelle profonde. Et dès qu'il y a un autre maître ou quelqu'un d'autre qui vient fouler aux pieds notre temple et notre plate-bande, si j'ose dire, eh bien, on n'est plus maître. C'est ce qui s'est passé chez les Juifs. Et du temps de Néhémie, c'est pareil. Ils sont revenus, mais ce n'était pas eux les maîtres, c'est les Perses qui gouvernaient. Alors, spirituellement, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est ma personne. Même si je suis chrétien, si je suis un disciple, si je suis sauvé, est-ce que je suis le maître chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui domine chez moi? Est-ce que j'ai un péché qui domine? Est-ce que j'ai une addiction qui domine? Et si j'ai quelque chose, je suis plus maître chez moi. Ça veut dire que, quelque part, mon Jérusalem, il est foulé aux pieds. Je ne domine pas comme du temps de l'apogée, David et Salomon, les frontières étaient sûres, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'étrangers, et c'était vraiment dédié à l'Éternel. Voilà. Donc il faut bien comprendre ça, parce que ça va être finalement l'enjeu spirituel pour chacun de nous aujourd'hui au travers de ce texte. Et ce que nous montre le livre d'Esdras, c'est un retour avec une tentative de reconstruction. Et on va voir tout ce qu'ils mettent en place pour essayer de reconstruire. Et on verra que c'est basé sur trois choses. Premièrement, retour dans le pays. Deuxièmement, le retour, un temple pour pouvoir louer le Seigneur, donc un culte. Et le troisième point, c'est la loi, la Torah, retour à la Torah. Alors, c'est pareil si on fait un parallèle aujourd'hui. Retour donc chez moi, oui, je deviens maître chez moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui domine chez moi ou pas? Quelqu'un, par exemple, va venir au Seigneur, il va rompre une addiction. Il sera dans la drogue. Nous, on a connu une personne qui faisait du go-fast en Espagne. Et à un moment donné, il a arrêté, il s'est converti. Il a fait son temps de prison, il a fait des années en prison. Et il a rompu cette addiction de la drogue. Donc il est revenu, on va dire, dans son pays, entre guillemets. Mais pour revenir dans son pays, il faut un temps de culte. Donc le culte, c'est ce qu'on va célébrer ce matin. Mais c'est aussi les cultes personnels. Est-ce que j'ai un culte personnel? Où est-ce que mon culte personnel, il cantonne au dimanche matin. Et puis la troisième chose, c'est la lecture de la loi, la Torah, le retour à la parole de Dieu. Et on voit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce que la parole de Dieu éclaire mon sentier? Voilà. Donc au travers de cette étude d'Esdras et Néhémie, finalement, on voit qu'il y a des enjeux spirituels pour nous. Je fais un parallèle un peu symbolique, mais on voit en fait, imaginons que certains d'entre nous se soient éloignés du Seigneur. Moi, ça m'arrive dans ma vie, j'ai 37 ans de vie chrétienne, il y a des moments où j'étais plus loin de Dieu. J'étais moins proche, et j'ai eu besoin de revenir. Je me retrouve dans cette situation finalement, pas de déportation peut-être, c'est un mot très fort, mais j'ai besoin de travailler à la reconstruction de mon être intérieur basé sur trois choses, la terre, la loi et le culte à l'Éternel. Voilà ce petit rappel historique que je voulais vous faire, mais avec un enjeu très important par rapport à ça. Donc, ce que je vous propose maintenant, on va chanter un deuxième chant, on reprendra ensuite. Voilà, je remets ce schéma parce que on va essayer de voir maintenant, j'aimerais vous transmettre, au travers de la lecture de ces deux livres, Esdras et Néhémie, je vous encourage à les lire, ils sont pas très longs, il y a moins de 20 chapitres pour les deux livres, ça se lit plutôt bien. Et au travers de ces lectures, j'aimerais vous donner 5 clés, 5 caractéristiques d'Esdras, et auxquelles Néhémie colle d'ailleurs aussi bien. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont pu enclencher un réveil? On verra tout à l'heure, on va lire un passage qui nous montrera tout ça. Quelles sont les caractéristiques finalement? Et si vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être éloigné du Seigneur, peut-être vous êtes dans une passe spirituelle qui est un peu basse. Hein. Et ça, encore une fois, ça arrive à tout le monde. Je ne connais pas un chrétien qui soit au top tout le temps. On a des hauts et des bas. Hein. Le but, ce n'est pas de se dire « je suis en bas », c'est de dire « si je suis en bas, comment je fais pour remonter ?» Et c'est ça la communion fraternelle, les frères et sœurs. C'est que quand on ne va pas bien, eh bien, il y a toujours d'autres frères et sœurs, il y a la parole de Dieu qui nous encourage, et on est là pour s'entraider, on est là pour prier les uns pour les autres. Hein, l'Épître aux Hébreux nous dit « mais exhortez-vous mutuellement, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Et le jour du retour s'approche, mes frères et sœurs. Amen. Le jour du Seigneur se rapproche. Il est plus près qu'hier. D'accord ? Je ne sais pas quand il sera, mais il est plus près qu'hier. Donc, on a besoin de s'exhorter mutuellement. Et on va voir donc comment Esdras s'y est pris. Alors, qui est Esdras déjà ? On va rappeler ça. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc Esdras, si on revoit les quelques caractéristiques qu'on a vues la dernière fois. On a vu que c'est une personne de caractère et de cœur. Elle a un caractère tourné vers le Seigneur. Vous voyez ce qui nous est dit, c'est Esdras s'appliquait de tout son cœur à étudier l'enseignement du Seigneur, à le mettre en pratique et à enseigner aux Israélites les lois et les règles de conduite. Donc personnellement, il étudiait les Écritures. Il était plongé dans les Écritures. Il essayait de les mettre en pratique. C'est pas tout intellectuellement faire de la théologie. Mais il essayait de le mettre en pratique, et une fois qu'il l'avait mis en pratique, il l'enseignait. Alors, effectivement, il y a des ministères d'enseignants dont nous parle la Bible, mais chacun d'entre nous, on peut être des enseignants, on peut être des transmetteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on étudie, qu'on se l'approprie, qu'on le met soi-même en pratique, on peut l'enseigner ou exhorter les autres à l'enseigner. Et c'est ce qu'il faisait Esdras. Il n'est pas exceptionnel. Hein, tout le monde peut faire ce que fait Esdras, peut-être à un niveau différent. En tout cas, c'est une personne de caractère. Il y a son caractère. Le caractère, c'est le plus profond de l'être. Hein. Ce n'est pas le bon ou le mauvais caractère, c'est vraiment l'intérieur de la personne, c'est l'état de son cœur. Deuxième caractéristique d'Esdras, qu'on a vu la dernière fois, c'est quelqu'un qui est sans arrêt conscient de la souveraineté de Dieu sur sa vie et sur les circonstances. Il sait qu'il est revenu, pas par hasard, hein. Et il écrit dans son livre, au premier verset de son livre, « L'Éternel fit naître dans l'esprit de Cyrus l'idée de publier dans son empire un décret autorisant le retour des Juifs. » Pensez donc, le roi du monde publie un décret en disant « Maintenant les Juifs, après 70 ans, vous rentrez au pays. » Et il est conscient que c'est Dieu qui est derrière. Il ne dit pas « C'est la loterie, c'est la chance. » Donc c'est quelqu'un qui, sans arrêt dans les circonstances, arrive à discerner ce que Dieu est en train de faire. Et ça aussi, c'est le caractère d'un homme de Dieu, de discerner, se dire, derrière tel événement, derrière telle circonstance, derrière telle difficulté, derrière telle maladie, il y a la main du Seigneur. Et la question qu'il faut se poser derrière, c'est Seigneur, pas... Alors souvent on se pose la question, Seigneur pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi, pas aux autres, et pourquoi ci, et pourquoi ça ? Mais la vraie question à se poser, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Il m'arrive ça, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Il y a l'édit de Cyrus, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Ça y est, si je lis Jérémie, le livre de Jérémie dit au bout de 70 ans, Israël va rentrer. Donc, et c'est ce que Daniel, dans sa prière, c'est pareil, le prophète Daniel, à un moment donné, il lit dans le livre de Jérémie qu'au bout de 70 ans, ça y est, on rentre. Donc, conscient de la souveraineté de Dieu. Troisième caractéristique d'Esdras. Il était conscient de la bienveillance de Dieu. On a chanté tout à l'heure « Ta bienveillance vaut mieux que tout ». D'accord ? Vous voyez, au chapitre 7, verset 27, c'est « Merci Seigneur » parce que, encore une fois, il est conscient que c'est le Seigneur qui a inspiré au roi le désir de reconstruire la maison. On l'a vu la dernière fois, il y a eu beaucoup d'opposition pour la reconstruction, il y a même eu des calomnies, on a accusé les Juifs de vouloir reconstruire, ils ont envoyé une lettre à Darius. Darius a fait des recherches dans les archives, il a retrouvé l'édit de Cyrus, et il a dit « Non, non, les Juifs, ils ont bien le droit de construire. » Et les adversaires ont eu la bouche clouée. Esdras s'en est remis au Seigneur, il n'a pas voulu faire justice soi-même, et ça lui a bien pris parce que il a été béni pour ça. Quatrième caractéristique qu'on avait vue également la dernière fois, c'est de la redite, mais comme je vous ai dit, c'est la répétition et la mère de l'enseignement. C'est un homme profondément attristé par le péché. D'accord ? Vous voyez, au verset 9, il déchire ses vêtements, il se jette à genoux et il lui adresse cette prière. Et cette prière d'Esdras est magnifique, au même titre que la prière de Néhémie, que la prière de Daniel, que la prière de Jérémie. Et cette capacité pour un réveil, cette capacité à s'humilier, à mener deuil, à être dans la contrition, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on décharge les gens de leur culpabilité. Il n'y a plus de culpabilité. Donc, s'il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus besoin de repentance. D'ailleurs, le mot repentance, on l'a enlevé des Bibles. On a remplacé par changer, comme ça, c'est bon. Je change de montre, je change de vêtements, eh ben, je change de comportement. Maintenant, le mot repentance, c'est ça. C'est la capacité d'être attristé par le péché, de comprendre que le péché nous sépare de Dieu, qu'il attriste Dieu en premier lieu. Le premier qui est attristé du péché, c'est Dieu. Et donc, cette capacité à revenir sur soi, à s'examiner, à regarder sa vie. Est-ce que j'ai péché, Seigneur ? Tous les jours, on doit le faire. Tous les jours, on devrait passer sa journée en revue. Seigneur, montre-moi où j'ai péché. Et parfois, le Seigneur ne nous montre pas tout, mais il y a plein d'endroits où on a péché. Et si je fais cette prière dans mon cœur, Seigneur, montre-moi où tu as péché, le Saint-Esprit, gling, gling, la petite conscience, Jiminy Cricket, assis sur l'épaule, va me dire, mais là, tu as péché. Là, tu as été dur en parole vis-à-vis d'un tel et un tel. Et il y a un mois, quand j'ai présenté le culte, j'ai eu une parole dure vis-à-vis de Nadège. Et je reconnais, j'ai péché et je vous en demande pardon. Et je lui ai demandé pardon pour ça. Et c'est très important pour restaurer cette communion avec lui. Donc, attristé par le péché. On avait vu tout ça. Quatre caractéristiques d'Esdras, vous voyez. Ça, c'est quatre caractéristiques de l'homme de Dieu prêt pour un réveil. Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, alors, si on regarde Néhémie, je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais si vous lisez le livre de Néhémie, vous retrouverez ces quatre caractéristiques, parce que Néhémie l'exprime également dans son livre. Mais je vais m'attarder sur la cinquième caractéristique, ce sont Esdras et Néhémie, ce sont des personnes de la parole et du réveil. Donc, je ne vais pas trop rallonger aujourd'hui, je vais simplement lire un passage dans Néhémie 8, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Comment Esdras et Néhémie ont conduit le peuple au réveil. Vous allez voir, il y a des... Alors, je ne ferai pas de grands plans de petit A, petit B, petit C. On va lire le texte ensemble. Et puis vous allez voir, je commenterai le texte au fil de l'eau. Mais le texte parlera de lui-même. Et si vous voulez, vous pourrez le relire. Donc, Néhémie chapitre 8. Quand arriva le septième mois de l'année... Tous les Israélites vinrent des villes où ils étaient installés. Alors, c'est important de comprendre que le septième mois, c'est un mois très important. Le premier mois, c'est la sortie d'Égypte, c'est le mois de mars. Là, on est en automne. Et normalement, d'après le calendrier lévitique, au septième mois, il y avait des tas de fêtes. Il y avait le premier jour, c'était ce qu'on appelle la fête des trompettes, ou la fête des cris de joie. C'est-à-dire, c'est un grand rassemblement. Le peuple d'Israël se rassemblait à Jérusalem. Il y avait une immense joie. C'était le rassemblement. Suivait ensuite le dixième jour, c'est le fameux Yom Kippour, le grand pardon. C'est-à-dire que les Israélites se rassemblaient dans la joie, et puis ils avaient un temps de contrition, où ils confessaient leurs péchés, c'est le Yom Kippour, le grand pardon. Et ce grand pardon était suivi le quinzième jour, pendant une semaine, ils avaient une grande fête, qui était la fête des cabanes, ou la fête des huttes, qui était aussi la fête de la célébration des récoltes. C'est la fin des récoltes tardives. Il y avait, vous savez que la Pentecôte, c'est la fête des moissons. On célèbre la fin des moissons. Et oui, les moissons étaient précoces en Israël. Et l'automne, c'était la fête, c'était la fin des récoltes, ce qu'on appelle tardives, c'est-à-dire le raisin et l'huile, qui étaient vraiment deux ingrédients très importants. Donc là, on est en automne ici. Et quand arriva le septième mois, tous les Israélites vinrent des villes où ils s'étaient installés. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem. Donc là, ils étaient d'accord pour venir. D'accord, il y avait une, une volonté de se rassembler sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de l'enseignement, d'apporter le livre de l'enseignement du Seigneur que celui-ci avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. On a vu pourquoi il demande à Esdras, parce que c'était un homme exceptionnel, même s'il était faillible, même s'il était pécheur. Esdras apporta devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et des enfants en âge de comprendre. D'accord? Donc là, il n'y avait pas d'école du dimanche, il n'y avait pas de culte de jeunesse, ils étaient tous rassemblés, tous les enfants, y compris les enfants qui étaient en âge de comprendre. Alors je ne sais pas quel est l'âge auquel les enfants peuvent comprendre la parole de Dieu. Vous diriez quoi? 7 ans, 6 ans, 7 ans. C'est sûr, c'était précoce, hein, à 12 ans, ils faisaient leur bar mitzvah. D'accord? Donc 7 ans, voilà. Il y avait les enfants de 7 ans et plus. C'est important de comprendre, parce que vous allez voir après. De l'aube jusqu'à midi. On est en septembre, c'est l'équinoxe d'automne. D'accord? Donc, septembre, de l'aube jusqu'à midi, mettons l'aube, c'est le lever du soleil, ça doit être 6h du matin, 6h30 peut-être. Un truc comme ça. Donc, allez, mettons 7h, on arrondit. 7h, de 7h à midi, pendant 5h. De l'aube jusqu'à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Donc imaginez, Esdras est sur une estrade, là. Il lit pendant 5 heures, il lit la parole de Dieu. Alors à l'époque, la parole de Dieu, ce n'était pas ce qu'on avait, c'était probablement le Pentateuque, le Deutéronome ou d'autres livres comme ça. Pendant 5 heures, il lit et ils écoutent attentivement. C'est impressionnant. Il y a une volonté, une soif de la parole, une soif de retour. Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance. Il avait à sa droite Matitia, Shema, Anaya, Uria, Ilkiya, Maaseya, et à sa gauche Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashebana, Zacharie et Meshulam. Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. 5 heures debout, hein. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent Amen. Ça, c'est formidable. Vous vous rendez compte? Il y a un Amen collectif, là. Tous répondirent Amen. C'est-à-dire qu'ils étaient, dans l'attente. Oui, qu'il en soit ainsi en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Yeshua, Bani, Sherebia, Yami, Akub, Haché, Bataï, Odia, Maaseya, Kelia, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les Lévites expliquaient cet enseignement au peuple, tandis que celui-ci restait debout. Alors là, les traductions diffèrent, je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans vos Bibles. Vraisemblablement, ce n'est pas une explication biblique. Les commentateurs, là, les différents passages que j'ai regardés, probablement, c'était une sorte de traduction. Hein, il faut imaginer que, à l'époque, l'hébreu était une langue religieuse et la langue parlée dans le bassin était l'araméen. Donc, c'est un peu comme si nous, on se rassemblait. Que, je vais prendre un exemple, que Esdras lisait en latin, par exemple, et que quelqu'un traduisait en français. Vraisemblablement, c'est pas une explication biblique individuelle, c'est probablement une traduction. Il lisait dans le livre de l'enseignement de Dieu de manière distincte, en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Le but, c'est que chacun comprenne. Moi qui ai été élevé dans la tradition orthodoxe, il y avait le latin de l'orthodoxe et le slavon. On ne comprenait rien. Moi, j'écoutais des messes debout pendant 2 heures et je ne comprenais rien. Parce que c'était du slavon. Pourtant, je comprends le russe, mais le slavon, je ne comprends pas. Donc là, vous voyez, vraisemblablement, il y avait une traduction dans une langue un peu compréhensive. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. À votre avis, pourquoi ils se mettent à pleurer? Des avis? Peut-être, oui, c'est une explication. D'autres explications? Oui?
Parce que c'était Christ.
Alors, parce que c'était Christ, tu as raison. Il lisait dans l'Ancien Testament, mais il y avait déjà Jésus en filigrane. Derrière ça, ça parlait de... Ah, parce que c'était triste. Ah oui, parce que c'était triste. Est-ce que c'est triste, l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a des choses tristes dans le Deutéronome? Oui? Oui, peut-être. Peut-être il lisait des passages où le peuple avait fauté et du coup ils étaient dans la tristesse. Tout à fait, tu as raison, Anna. Bonne explication aussi. D'autres explications?
Ils ont peut-être pris conscience que même s'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait, Dieu les avait
Probablement, voilà, exactement. Ils pensaient qu'ils étaient quand même à Jérusalem. Jérusalem était occupée, hein, je vous ai dit, Jérusalem est foulée aux pieds, est dominée par les Perses. Hein. Si vous lisez le livre, il y a des opposants, Tobia, et Geshem l'Arabe, etc., qui n'arrêtent pas de leur faire des misères. Donc ils sont pas maîtres chez eux. D'accord? Donc ils pensaient à ça. Ils pensaient peut-être qu'ils ont lu dans le Deutéronome les bénédictions, les malédictions. En tout cas, je pense que, pour résumer tout ce que vous avez dit qui était juste, je pense que la parole de Dieu, quand on l'écoute, elle touche les cœurs. La parole de Dieu, c'est pas juste un roman d'Alexandre Dumas qu'on lit, c'est une puissance, ça brise le roc, nous dit Jérémie, et la parole de Dieu est un miroir. Quand je lis la parole de Dieu, c'est un miroir, je me retrouve dans la parole de Dieu, elle me confronte avec mon attitude, et probablement, à un moment donné, ils se sont rendus compte de tout ça. Comme Daniel qui lit la parole de Dieu, le livre de Jérémie, il se rend compte qu'ils ont été déportés parce qu'ils ont péché. Tout de suite, il voit le sens, il se dit, mais oui, le Seigneur est souverain, il nous avait bien dit que si on péchait, on serait déporté, et voilà, on est déporté, donc Dieu est juste, Dieu dit, ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc ils se mettent à pleurer parce qu'ils se disent, mais oui, c'est vrai. On est dans le malheur, ça prend du sens, notre malheur prend du sens. Et probablement, le livre avait été oublié, hein, comme on voit dans la période de dégringolade dont je vous ai parlé. À un moment donné, ils oublient le livre de la loi, puis vous savez, je crois que c'est sous Josias, ils retrouvent le livre dans le temple. Ils se disent, c'est quoi ça? Ah, mais c'est le livre de la loi de l'Éternel. Depuis des années, il avait été oublié. Peut-être que ce matin, pour toi, mon frère, ma sœur, peut-être que la parole de Dieu, elle est restée sur l'étagère un peu trop longtemps. Peut-être que tu la prends pas très souvent. Hein, et je dis pas ça en jugement, bien au contraire, parce que moi, ça m'arrive de temps en temps. Alors peut-être cette parole qui est sur l'étagère, elle a besoin de venir sur la table, elle a besoin d'être ouverte, et puis elle a besoin d'être lue, parce que regardez ce que ça produit sur une assemblée d'enfants de 7 à 77 ans, d'accord? Ça provoque des pleurs. Ça provoque des pleurs, peut-être les gens ont le cœur touché. Comme le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre prêche la parole de Dieu, et qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils eurent le cœur vivement touché. Et quand ils eurent le cœur vivement touché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous en souvenez, dans Acte 2? Allez, on n'a pas le temps d'y aller, mais juste, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, que devons-nous faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Peut-être la parole de Dieu, tu l'as laissée sur l'étagère, peut-être tu vas la rouvrir demain. C'est le temps des vacances, on a un peu plus de temps, j'espère. Tu vas ouvrir la parole de Dieu, tu vas lire quelque chose, ton cœur va être touché, et la question à poser, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on a vu dans les caractéristiques d'Esdras, c'est un homme qui lisait la parole, qui la mettait en pratique et qui l'enseignait. Mais il lisait la parole et puis il ne refermait pas. Parce que s'il referme la parole, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que dit Jacques. Celui qui lit la parole et qui aussitôt la ferme est un homme qui regarde son visage dans un miroir et ensuite il s'en va, il oublie comment il est. Donc là, on a des gens qui ont le cœur vivement touché et ils se mettent à pleurer. C'est leur réaction. Ils pleurent leur misère. Et ce pleur est salutaire parce que c'est quand on pleure devant le Seigneur sur son éloignement, sur la dureté du cœur. Moi, j'ai pleuré cette semaine sur la dureté de mon cœur. Et quand on pleure sur sa misère, c'est là que le Seigneur met sa main sur nous et il nous relève. Il nous rappelle qu'on est son enfant, que sa bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai fait. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cet enseignement. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi et les Lévites, et qui expliquait le texte, leur dire « Ce jour appartient au Seigneur votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas. » Esdras ajouta « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour appartient à notre Seigneur, ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Ça c'est dans ma traduction, dans les traductions plus ordinaires, c'est « La joie de l'Éternel sera votre force. » D'accord? Pourquoi est-ce que Esdras et Néhémie disent aux gens « Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas, ce jour appartient au Seigneur. »
Maintenant qu'ils ont réalisé
Oui, c'est très juste. Quand on est dans la misère, le Seigneur, il ne nous laisse pas dans la misère. Ça, c'est le diable qui nous laisse dans la misère. Il nous culpabilise. Ah, t'es un pécheur, t'es un mauvais, de toute façon, regarde. T'es encore retombé, tu seras bon à rien, Dieu ne t'aimera plus. Voilà, ça, c'est le diable qui nous susurre ça. Ce que Dieu nous dit, c'est, voilà, tu t'es repenti, tu t'es humilié, maintenant tu peux relever la tête parce que je suis là. C'est moi qui te relève la tête. Les psaumes nous disent, le Seigneur est avec celui qui a le cœur brisé et contrit. Donc Dieu est avec ceux qui ont le cœur brisé. Et il y a une autre raison aussi, c'est que, souvenez-vous, c'est la fête des trompettes ce jour-là. C'est la fête des cris de joie aussi. Donc, c'est un jour de réjouissance. Il se trouve que la parole de Dieu a touché les cœurs. Il y a eu un réveil profond dans les cœurs des gens. Donc ils se sont mis à pleurer, ils ont pleuré sur leurs péchés. Et là, Esdras et Néhémie, en leader spirituel, leur rappellent, mais c'est un jour de joie aujourd'hui. Rentrez chez vous, faites la fête. En plus, c'est bien, vous vous êtes repentis, vous vous êtes humiliés. Maintenant, faites la fête. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie triste, c'est pas une vie de culpabilisation permanente où il faut se flageller, où il faut faire des sacrifices. Jésus est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Donc, il y a plein d'occasions de réjouissance dans la Bible. Et là, aujourd'hui, enfin, ce jour-là, ce premier jour du 9e mois, eh bien, c'est un jour de réjouissance, c'est le jour des cris de joie. Et Dieu a prévu dans la parole de nombreux jours de joie, de réjouissance. Il a prévu des jours de contrition, il a prévu des jours de réjouissance. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu de réjouissance. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ne pleurez pas, parce que la joie de l'Éternel vous donnera la force. Les Lévites aussi apaisaient le peuple en disant, calmez-vous, ce jour appartient à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce texte, on va le prendre dans la Bible, on va prendre en 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, je crois que c'est 7. J'y pense là. Oui, 2 Corinthiens 7, verset 8, pour ceux qui ont leur Bible. C'est Paul qui écrit donc dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Vous savez qu'il a écrit une première lettre, on l'a étudiée, 2 Corinthiens. Il a écrit une première lettre qui était un peu dure, ensuite une autre lettre qui ne nous est pas parvenue. Et là, il y a une troisième lettre où il revient sur une lettre un peu dure qui a attristé les Corinthiens. Et voilà ce qu'il dit, en effet, même si la lettre que je vous ai écrite vous a rendu triste, je ne le regrette pas maintenant. J'ai pu le regretter quand j'ai constaté que cette lettre vous avait attristé sur le moment, mais maintenant, je me réjouis non pas de vous avoir causé de la peine, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de vie. Ça, c'est dans ma version français courant. La version originale, Louis II a traduit parce que votre tristesse vous a amené à la repentance, ou vous a poussé à la repentance. Cette tristesse était telle que Dieu la voulait, si bien que nous vous avons causé aucun tort, car la tristesse causée par l'attachement à Dieu produit un changement de vie, produit une repentance. Je vais enlever ce mot changement qui m'énerve. Car la tristesse causée par l'attachement à Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Sans qu'on ait à le regretter, mais la tristesse causée par l'attachement à ce monde produit la mort. Vous voyez, Paul définit deux types de tristesse. Il y a la tristesse qui conduit à la mort. Ça, c'est le regret, c'est Judas. Il était triste d'avoir trahi Jésus, mais ça a pas, dans son cœur, ça n'a pas changé. Et du coup, il est allé se pendre. Et puis, il y a la tristesse qui conduit à la repentance. Et là, je crois que dans le livre d'Esdras, on parle de la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu, c'est la tristesse qui me confronte à qui je suis et qui me donne ma juste place par rapport à qui Dieu est. Quand je suis à ma place par rapport à Dieu, eh bien, je peux me repentir, venir à Dieu comme vers un papa, venir me faire consoler, me faire réconforter, me faire réconforter et restaurer cette relation. Et là, il s'agit de cette tristesse selon Dieu, qui est une bonne tristesse parce qu'elle me pousse à la repentance. Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Verset 12. Alors tous rentrèrent chez eux pour manger et pour boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Vous voyez, c'est ça la clé. Ils avaient compris. Le cœur a été touché. Ils ont agi. Ils ont pleuré. Et ensuite, ils se sont réjouis. Et c'est comme ça qu'on restaure la communion avec Dieu. C'est comme ça que, même si on a abandonné Dieu, une semaine, un mois, un an, 10 ans, on peut revenir au Seigneur dans la tristesse et dans la repentance. Dieu nous relève, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes et on peut se livrer à de grandes réjouissances. Le jour suivant, tous les chefs de famille israélites, les prêtres et les lévites se rassemblèrent autour d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus en détail les paroles de ses enseignements. Ils continuent. Ils ont été touchés par certaines choses. Ils se disent, il faut qu'on aille plus loin. Donc si tu t'es éloigné du Seigneur et tu reviens, tu t'éprouves de la joie, le Seigneur te relève, ne reste pas là. Continue. Le jour suivant, ils étudient plus en détail les paroles de ces enseignements. Dans cet enseignement que Dieu avait communiqué par l'intermédiaire de Moïse, verset 14, ils trouvèrent le passage qui ordonne aux Israélites de vivre dans des tentes pendant la durée de la fête des tentes au 7e mois. Cette fête doit être annoncée par une proclamation publiée dans toutes les villes, y compris Jérusalem. La population est invitée à se rendre dans les montagnes et à en ramener des branches d'oliviers cultivées et sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour s'en faire des tentes, comme cela est écrit. Voilà, donc ils célèbrent la fête des tentes. Alors, c'est un peu à l'envers parce que ça avait tellement été oublié depuis des années. Ils étaient en exil. Normalement, la fête des tentes, je vous ai dit que selon Lévitique, elle est célébrée au 15e jour. Là, ils la font le lendemain. Vous voyez, le Seigneur, il ne va pas leur dire, le Seigneur n'est pas un Dieu castrateur en disant, vous n'avez pas fait selon les règles, dégagez. Non, ils célèbrent la fête des cabanes, d'accord, donc ils vont chercher les branchages, etc. Je saute au verset 17. Ce fut l'occasion de très grandes réjouissances, car les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis l'époque de Josué, fils de Noun. Chacun des jours de la fête, du premier au dernier, on lut un passage dans le livre de l'enseignement de Dieu. La fête dura 7 jours, se termina le 8e jour par une règle et une assemblée solennelle selon la règle établie. Vous voyez ? Donc toujours dans ce chapitre 8, le centre, c'est la lecture de la parole de Dieu. D'accord ? Revenir aux Écritures. Qu'est-ce que dit la Bible ? Quel est le miroir qu'elle me fait de moi-même ? Chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se rassemblèrent pour un jeûne. Là aussi, ils font les choses un peu à l'envers. Normalement, je vous ai dit, c'est le 10e jour du 9e mois, le Yom Kippour. Là, ils font ça le 24e jour. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. D'accord ? Donc, ils confessèrent qu'ils avaient péché, eux et leurs ancêtres. Ensuite, ils se relevèrent et écoutèrent debout pendant 3 heures la lecture faite dans le livre de l'enseignement du Seigneur leur Dieu. Pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant le Seigneur pour lui demander pardon. Donc 3 heures d'écoute de la parole de Dieu, 3 heures de repentance. Voilà. Et puis là, donc, ensuite, vous avez toute la prière. J'ai pas le temps de la lire. Vous pouvez lire au chapitre 9 toute cette prière qui est un va-et-vient permanent entre « Mais nos ancêtres ont abandonné, mais toi, Seigneur, tu as été bon et compatissant, mais ils ont abandonné, mais toi, tu les as rappelés, mais nous, mais eux, mais nous, mais toi, etc. » Vous lirez tout ça chez vous. Il résume tout ce qui s'est passé dans leur vie. Et regardez au verset 37, la conclusion de cette longue prière. « Ce pays... » donc dans lequel ils sont, produit des biens en abondance. Ça, c'est ce que Dieu avait promis. Israël, c'était le pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays produit des biens en abondance pour les rois auxquels tu nous as soumis à cause de nos péchés. On est dans le temps des nations, Jérusalem est foulée aux pieds. Ils disposent de nous et de notre bétail selon leur bon plaisir. Nous sommes dans une profonde détresse. Et pour terminer, chapitre 10, verset 1. À cause de tout ce qui nous est arrivé à nous les Israélites, nous avons pris un engagement ferme que nous avons mis par écrit. Voilà. Donc, ils s'engagent. Vous voyez, chapitre 8, c'est la lecture de la parole. La parole touche les cœurs. Chapitre 9, confession. Chapitre 10, je prends un engagement ferme que je mets par écrit et le premier qui est nommé dans la liste des signataires, je vous le donne en 1000, le gouverneur Néhémie, fils de Hakalia. Voilà donc ce livre d'Esdras et Néhémie. Si on voulait conclure, quelques applications pour nous par rapport au caractère d'Esdras. Je reprends les 5 points du caractère d'Esdras. Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Est-ce que je suis un homme, une femme ? qui s'applique à lire les Écritures, à les mettre en pratique et à les enseigner. Deuxième caractéristique appliquée à moi, quelle est ma vision de la souveraineté de Dieu ? Est-ce que je distingue, je discerne derrière les circonstances la main de Dieu sur moi ? Ou est-ce que Dieu est quelqu'un de lointain que j'appelle comme un groom quand j'ai besoin et que j'abandonne dès que j'ai plus besoin de lui ? Troisième chose, est-ce que je sais être reconnaissant de la bonne main de Dieu sur moi ? Ça, c'est tiré du livre de Néhémie. Il utilise cette expression « la bonne main de mon Dieu était sur moi » parce qu'il discerne qu'à un moment donné, s'il a des laissés-passer et s'il n'est pas embêté par les pays qu'il traverse, c'est parce que Dieu est là. Est-ce que moi, je sais être reconnaissant des bienfaits que Dieu me fait ? Est-ce que je lui signale ? Est-ce que régulièrement, je le remercie pour ça ? Quatrième point, est-ce que je suis une personne attristée par le péché ? Par le mien, par celui que je vois autour de moi ? Ou est-ce que j'ai insensibilisé mon cœur au péché ? Et enfin, je suis allé trop vite, le cinquième point par rapport à ce qu'on a vu, est-ce que je suis une personne de la parole qui sait la mettre en pratique ? Ça va un peu trop vite, je pense. Pour ceux qui veulent faire une diapo, là. Suis-je une personne de la parole qui s'y plonge régulièrement ? Et qui s'efforce de la mettre en pratique. Voilà, j'aimerais vous encourager pour cet été à méditer sur Esdras et Néhémie en fonction de votre situation, là où vous en êtes, et peut-être vous poser ces questions par rapport à vous-même personnellement. Prions. Notre Dieu, merci encore pour ces exemples que tu nous donnes. Ils sont tellement lointains dans le temps, mais tellement d'actualité aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que dans ma vie, j'ai besoin de revenir sans arrêt à toi, que le péché m'enveloppe si facilement, que ma vieille nature ressort tellement souvent. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant qui pardonne. Ta bienveillance est infinie, tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, ta parole nous dit que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Gloire à toi, Seigneur, tu es vraiment un grand Dieu. Amen. Voilà, je vous propose pour conclure...